7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines bien sûr. Aujourd'hui, mercredi 14 février, Saint-Valentin.
Ah non !
Se creuser la tête, faire plaisir, offrir un cadeau, célébrer, faire comme tout le monde. Sauf que, on peut aussi être réaliste, la Saint-Valentin est-elle la fête des amoureux ou du couple ? Et comme sur la planète, la majorité des couples vivent ou cohabitent sans amour avec un grand A, alliance non choisie ou usure du temps, rapiessage, petits arrangements, être en couple sans s'aimer, peut-on être heureux ? Voilà la vraie question qui, malgré le mariage d'amour apparu en Occident au 19e siècle, perdure dans les replis du quotidien. Par confort, par nécessité, par habitude ou par souci des enfants, certains couples restent ensemble alors que l'amour n'est plus là, voire n'a jamais existé. Alors à quoi ressemble le quotidien d'un faux lit partagé ? Nous allons en discuter avec l'un des meilleurs sociologues de la vie privée. Bonjour Jean-Claude Kaufmann.
Bonjour.
Vous avez publié « Piégé dans son couple » ou encore « Dormir à deux ». Vous avez écrit aussi sur la Saint-Valentin et tout dernièrement, dans un sursaut d'optimisme, vous publiez une correspondance romancée « L'amour qu'elle n'attendait plus » chez Hugo. On ne vous la fait pas, question couple, hein, après 40 ans d'enquête.
Non, une correspondance romancée à partir d'une histoire vraie, c'est-à-dire une vraie correspondance avec des témoignages. Hein. J'ai des personnes qui ont... j'ai des échanges par mail sur dans les plis les plus secrets de l'intime, les gens qui se cherchent et puis qui cherchent l'amour.
C'est ça. Et vous vous retrouvez thérapeute malgré vous, toujours.
Oui, alors ça, j'essaie de dire.
Alors surtout, sociologue.
Quand des personnes ont des problèmes très, très lourds, je dirais, je dis stop hein, tout le temps parce que je ne suis pas thérapeute et je renvoie à des thérapeutes.
Néanmoins,
mais
vous en connaissez un rayon quand
oui,
même.
Oui, mais je suis pas loin de la position du thérapeute. Ouais.
Avec nous également Géraldine Prévost-Gigant, psychopraticienne, spécialiste de la question amoureuse et de la dépendance affective. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié Le Grand Amour, se préparer à la rencontre. Aux éditions Odile Jacob. Les personnes qui vous consultent vous parlent soit de leur travail, soit de leur couple.
Oh, beaucoup d'amour, parce qu'ils savent que c'est aussi ma spécialité. Oui, principalement des relations, de leur amour, qu'il soit légitime ou illégitime, d'un amour qui est présent ou d'un amour qui disparaît.
Et justement, quant à vous les voisins, l'émission ne peut pas se faire sans vous. Appelez-nous dès maintenant si vous vivez dans un couple sans amour ou avec de réelles difficultés. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Aucune honte à parler au nom du plus grand nombre, finalement, à démystifier un fantasme marketing, une injonction sociale sur l'obligation d'être heureux en couple. Évidemment, vos messages sont postés sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Et sur Facebook, ça discute. Miguel est à Brazzaville, il nous dit « L'amour de nos jours n'est qu'une illusion, il n'y a ni homme parfait ni femme parfaite, on se contente de ce qu'on trouve. La fête de l'amour n'a aucun sens. » À Brazzaville également, un autre voisin nous dit « Au Congo, l'amour est d'abord pour la femme un facteur de spoliation. Les femmes n'offrant de l'amour qu'à celui qui aura acquis aisance matérielle et un prestige social. L'amour s'obtient au prix d'un troc entre le Valentin et la Valentine. » C'est une façon de voir. Aimé nous dit que lui, il a vécu dans une famille où l'amour conjugal était quasi inexistant. J'en suis le fruit et croyez-moi, dans la plupart des cas, ce sont nous, les hommes, qui sommes fautifs. Bon, à discuter. Un voisin malien qui est un peu poète, Djibril, est à Kaï et il nous dit « La parade, les noces et rebonjour la vie, on doit s'aimer pour être ensemble, mais pour rester ensemble, de quoi faut-il se nourrir ? Dispute, entente, enfant, travail, la soupe ne manque pas d'ingrédients, seul le hibou reste heureux tout le temps, car madame s'appellera toujours chouette. Quelle est surprenante la vie avec tant de facettes !» Je ne sais pas ce que vous inspire ce message, Jean-Claude Kaufmann.
Ah ben je ne peux pas continuer en vert. Hein. J'ai pas. Non, mais ça c'est superbe. Alors ils sont un petit peu désabusés quand même vos messages.
Bah, faut dire qu'on a lancé le sujet sur la version grise du couple.
Oui, alors il faut croire en l'amour et puis il faut des fois aussi savoir le voir, là où on a l'impression qu'il n'est plus, hein, parce qu'il y a un rêve secret de grand amour, cette perfection dont vous parlez, donc, et qui fait du mal des fois. Surtout qu'on a l'impression que chez les autres, ça va très très bien, parce que chacun met en scène un petit peu son bonheur, quoi. Et des fois, on ne voit pas les petites choses très ordinaires, cachées dans la routine du quotidien, qui sont quand même des petites pipites de complicité.
C'est exactement ce que nous dit Bouna, qui est à Nouakchott en Mauritanie. L'habitude, la pression de la famille, de la société sont des ennemis du couple à combattre par le dialogue, les surprises et surtout les petites choses qui ne coûtent rien. Un petit don de soi, une disponibilité, une excentricité. Voilà.
Oui, souvent, moi ce que j'entends dans le cabinet, c'est que les personnes vont sublimer l'amour, sublimer cet être qu'ils n'ont pas encore rencontré et idéaliser ce que pourrait être une relation ensemble, une forme de non-réalité. Or, c'est dans le réel que se trouvent en effet les pépites, que se trouvent en effet des moments particulièrement beaux, délicats, et il faut en effet savoir le voir, et c'est tout un travail de subtilité. Et en même temps, c'est tellement merveilleux de savoir que chaque jour, on peut voir dans notre relation des choses merveilleuses, on peut voir chez l'autre des petits gestes simples et pourtant tellement délicats, tellement touchants.
Et sinon, que faut-il faire quand on se rend à l'évidence qu'on vit dans un couple sans amour? Évidemment, vous nous appelez pour témoigner de votre situation au 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez nous questionner sur vos difficultés conjugales ou nous suivre sur Facebook, sur Instagram et en direct, évidemment sur Twitter.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Mais tout de suite, écoutez le témoignage de vérité de Sacha, 44 ans. Il vit à Paris, il est papa d'une petite fille de 7 ans. Après 10 ans de vie commune, Juliette, sa compagne, vient de le quitter. Il raconte ses années de couple sans amour à Alice Milo.
Bah ici, c'est ma chambre. Enfin, c'est ma chambre, c'était notre chambre avec mon ex-compagne. Et maintenant, bah, c'est ma chambre à moi tout seul. Bon, alors là, c'est la penderie. En fait, c'était le placard de mon ex-femme. Et pour l'instant, bah, j'arrive pas à ranger les choses dedans. Donc, je le laisse vide.
Elle est partie il y a combien de temps?
Un mois et demi, deux mois à peu près. Moi, elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. Voilà. Ce à quoi j'ai répondu bêtement: ah oui, mais ça, c'est pas grave, on peut continuer à être ensemble. Parce que je considérais que l'amour, c'était un truc tellement fatal que, en gros, on pouvait pas tout le temps être dans l'amour, on pouvait pas tout le temps être dans la passion, parce que voilà, c'est des choses qui passent.
Qu'est-ce qu'elle a répondu?
Elle m'a dit qu'elle ne supportait pas de vivre dans cet état de fait, et qu'en fait, pour elle, c'était inenvisageable de vivre avec quelqu'un dont on n'était plus amoureux.
Comment votre histoire a commencé?
Ben, en fait, ça a commencé de façon très classique. On s'est rencontrés au travail, comme de nombreux couples. On a parlé de bébé assez tôt, enfin moi surtout, et je me souviens que j'ai au départ un peu insisté pour avoir un enfant. Et à 35 ans, j'avais envie d'avoir un enfant.
Et elle avait 11 ans de moins.
Et elle avait 11 ans de moins, donc elle avait 24 ans. Donc j'ai un peu insisté, et on a fait un enfant assez rapidement en fait, au bout de 2 ans. On était très contents d'avoir notre petite fille, et on a eu vraiment une période très sympa. Quand ma fille est née, c'est là où ça a commencé à être un peu plus difficile. Il y a de la fatigue physique, de la fatigue psychologique. Il y a une usure aussi qui s'installe parce qu'on se voit beaucoup. Que l'enfant est au centre du couple. Et c'est pas le partenaire qui est au centre de la vie, mais c'est l'enfant. Donc il faut s'adapter à tout ça. Moi, j'ai pas trop vu le truc se déliter. Et en fait, moi, j'ai pas réagi. Donc je me suis laissé un peu porter par l'habitude, par le quotidien. Et puis, dispute sur dispute, et au fur et à mesure, les disputes, ça devenait la norme, en fait.
À quel moment, finalement, vous avez compris que vous n'étiez plus amoureux?
Je sais pas. Je pense qu'on était devenus des copains, quoi. Et moi, ça me convenait d'être un copain, en fait. Être ami avec la mère de ses enfants, je pense que ça arrive à beaucoup de gens, mais ils ne sont pas posés la question, tout simplement. Ils ne se sont pas dit, tiens, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle? Ou même se poser la question, ça vous pose un problème, parce que vous dites, mais je ne devrais pas me poser cette question, puisque normalement, tout va bien. Je pense, hein, vraiment, sans trop me mouiller, que les trois quarts des couples, ils sont copains, vraiment, quoi. Voilà. À partir d'un certain nombre d'années. Voilà. Je pense qu'ils sont potes. Mais moi, je pense qu'on peut être potes et bien s'entendre. Et voilà, c'est pas l'histoire d'amour du début, mais on avait beaucoup de tendresse l'un envers l'autre. En fait, ouais, c'est vrai qu'on pratiquait plus de vie sexuelle, quoi. On le faisait plus. Mais il ne faut jamais arriver à une espèce de situation où il n'y a plus de vie sexuelle. Parce qu'en fait, la vie sexuelle, bah, ça fait partie d'une vie de couple. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de vie sexuelle, vous êtes deux potes, voilà, vous cohabitez, vous êtes des copains, quoi. Vous êtes dans une relation amicale, d'éducation, c'est un partenariat tous les jours. Et ça, je pense que c'est le piège se referme après.
Est-ce que vous vous mettez d'accord sur le fait que vous avez le droit, l'un et l'autre, d'aller voir ailleurs ?
Non, c'est resté un sujet tabou. Je pense que ce que je veux dire, c'est vraiment cynique, hein, mais j'en ai conscience. C'est qu'en gros, bon, s'il y en a un qui va voir ailleurs, c'est pas la peine de le dire à l'autre.
Vous comprenez à ce moment de votre histoire que vous êtes plus amoureux, mais vous décidez de rester ensemble, et vous, ça vous convient ?
Oui. Enfin, moi, je trouvais que finalement, cette façon de vivre, c'était pas si désagréable que ça. On est dans une espèce de confort, quoi. Voilà, c'est une zone de confort. Pour tout ce qui était éducation, on s'entendait bien. Je trouvais qu'au-delà des disputes qu'on pouvait avoir, il y avait quand même des moments où c'était sympa. Pour moi, les moments où c'était sympa primaient sur les moments de dispute. Et je trouvais que finalement, cette vie-là, elle était quand même agréable. Voilà. Et ouais, j'aurais pu continuer comme ça pendant des années. Hein. Ça m'aurait pas dérangé. Même si j'avais toujours dans l'esprit que, comme tous les couples, il y avait des périodes de copinage. Moi, j'appellerais ça comme ça. Et je me suis dit, tout ça, ça va passer. Puis finalement, bah, c'est ma compagne qui a fini par partir. Ça m'a surpris, hein. J'étais très surpris. Oui, on peut vivre en couple sans être amoureux, on peut être heureux, mais je pense qu'il faut que cet état soit passager. Si cet état, c'est permanent pendant une vingtaine, une trentaine d'années, c'est pas viable. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, bah, si on y met du sien, mais il faut que les deux y mettent du leur, on peut y arriver, il faut faire des efforts. Voilà, je pense que c'est triste à dire, mais il faut toujours faire des efforts. Mais il faut que l'envie de faire des efforts, elle soit là.
Bon, les voisins, si vous vivez en couple une histoire plate sentimentalement en cette Saint-Valentin, appelez-nous, dites-nous pourquoi vous restez en couple, quelles que soient les raisons. Et est-ce qu'on peut être heureux ? Vous l'avez entendu, Jean-Claude Kaufmann, Géraldine Prévost-Gigant, on vient d'entendre un témoignage d'un jeune homme qui dit « Oui, c'est un sujet tabou, on était dans un couple de confort, ça vous surprend ou pas ?
Pas du tout. C'est vrai que c'est vraiment un sujet tabou.
En France, en 2017.
Ouais, hein. Absolument. On n'en parle pas parce qu'il y a aussi un mythe autour du couple et le bonheur d'être en couple. Mais il y a en effet beaucoup de personnes qui me consultent, qui sont dans ce type de situation et qui sont bloquées dans une relation où il n'y a plus d'amour. Alors, la première chose, moi, que je creuse, c'est il n'y a plus d'amour réellement ou pas, parce que parfois les gens disent, et notre témoignage, la personne l'a dit tout à l'heure, il n'y avait plus de passion, il n'y avait plus d'amour. Pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a la phase passionnelle du début, et puis ensuite, il y a un amour véritable, plus profond, plus intense. Et il doit être entretenu dans la relation. C'est-à-dire qu'on est deux à co-créer une relation.
Et là, c'était un couple sans complicité sentimentale et sexuelle.
Exactement. Et le quotidien a pris le dessus. Et là, du coup, l'amour s'éteint comme une petite flamme.
Jean-Claude Kaufmann.
Oui, moi, je trouve le témoignage de Sacha, là, particulièrement...
C'est pas un couple de gens de 70 ans, hein,
non,
on est bien d'accord.
Non, il est extrêmement sincère et juste et très révélateur. Très masculin aussi. Hein. C'est-à-dire que...
C'est-à-dire, moi, ça m'allait, c'était
voilà,
un couple de
moi,
confort.
Le couple confort copain convient très bien aux hommes qui ont besoin un petit peu d'avoir une base, d'une base de confort, avec en plus, avec quand même les relations sexuelles. Hein. Parce que là, ça manque un peu. Là, ça s'était un petit peu délité, leur relation. Donc là, c'est extrêmement fréquent, effectivement. Au début, il y a la passion. Alors, il faut voir, il faut bien s'entendre sur la passion des débuts. Des fois, il n'y a pas le grand coup de foudre, etc. Mmh. Mais c'est un remuement intérieur. Mmh. Parce qu'on va s'inventer, se réinventer mutuellement, selon le partenaire que l'on rencontre, on va devenir X ou Y. On va être réinventé par l'autre. Donc ça bouge tous les jours. Et puis on met en place un système de la vie quotidienne qui va devenir un système de confort
Mais
matériel.
Ce couple et... copain, qu'est-ce que c'est exactement ? Parce qu'on connaissait le sex friend, hein, c'est-à-dire l'amitié sexuelle, où c'est un partenaire mais qui on n'est pas en couple. Le couple copain, qu'est-ce que c'est dans le fond ?
Alors là, c'est le couple copain plus l'arrivée de l'enfant. Et quand l'enfant arrive, le couple parental zappe le couple conjugal. C'est-à-dire qu'on devient, même le jour de la Saint-Valentin, si on réserve une table au restaurant, de quoi va-t-on parler ? Du bébé ou de l'enfant. Parce que de toute façon, il faut faire face, il y a plein de problèmes, on n'a que ça dans la tête. Donc là, il faut faire attention que le couple ne disparaisse pas, et ça va plus facilement du côté des hommes, ça, qui laisse passer, et du côté des femmes, il va y avoir comme un manque, très souvent. Le manque de l'amour avec un grand A, même si c'est un petit peu idéalisé, mais effectivement, elle va dire « je n'étais plus amoureuse », est-ce qu'elle était vraiment plus amoureuse, elle était peut-être quand même attachée à Sacha. Ouais.
Et puis que dire aussi des couples qui ne se sont pas choisis par amour? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous donnons la parole à Youssef qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Youssef.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins. On vous écoute.
Merci. Bonjour à tous les voisins. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer aujourd'hui. Alors, en fait, je veux juste faire un partage d'expérience par rapport à la situation dans laquelle je vis. Il faut dire que moi, historiquement, je suis quelqu'un qui a essuyé pas mal d'échecs en amour, en guillemets. Il y a des couples qui n'ont pas vraiment réussi et qui se sont soldés par des séparations brutales qui m'ont profondément fait mal.
Oui.
Et du coup, je suis entré dans une situation à laquelle je me suis retrouvé à être dans un mariage, entre guillemets, arrangé. Et pour moi...
Vous vous êtes marié il y a peu de temps, c'est ça? Vous avez 26 ans?
Oui, c'est ça. Ouais.
Donc mariage arrangé par la famille ou comment?
C'est ça. Donc, c'est un mariage, entre guillemets, arrangé par la famille, dans le sens où ma maman, elle a quand même essayé de peser là-dessus, de m'orienter vers cette dame-là, cette fille-là. Et voilà, je l'ai fait parce que bon, je me suis dit qu'il fallait quand même une présence féminine dans ma vie.
Oui, vous l'avez fait, mais vous ne l'aimez pas.
Voilà, je l'ai accepté, malgré moi, on va dire.
La question que vous vous posez aujourd'hui, alors, où est-ce que vous en êtes et c'est quoi l'étape suivante, finalement?
C'est cela, c'est bien cela. Et surtout, quelle est la possibilité, ou je ne sais pas moi, si je peux recueillir des conseils, des partages d'expérience des personnes pour vraiment essayer de m'en sortir de cette situation-là, quoi, parce que il n'y a jamais vraiment eu d'amour.
En quoi vous diriez, vous n'avez pas d'enfant pour l'instant, Youssef?
Non, pas encore.
Alors finalement, en dehors du papier qui vous déclare marié, papier ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais j'imagine que vous êtes aussi marié devant la mairie et pas que en mariage traditionnel. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un couple malgré tout, malgré l'absence d'amour?
Je vous avoue que je ne saurais pas décrire ça, mais je trouve ça quand même assez difficile. C'est vraiment difficile à vivre, je ne sais pas du tout comment vous répondre par rapport à ça.
C'est difficile à vivre, d'autant plus que parce que vous avez 26 ans, que vous faites partie de cette nouvelle génération?
Absolument. Et si vous permettez aussi, déjà, il y a des fois où on me fait « Écoute, tu sais, je pense que celle-là ne mérite pas. Toi, tu es plutôt le genre de mec, c'est classe, t'es une femme, c'est, voilà, c'est un plus chiffon, des trucs du genre. » Du coup, ça, également, ça me fait baisser les bras pour essayer de faire des efforts pour qu'un amour s'installe, en fait.
Et votre question, celle que vous avez lancée au standard, c'est vous cherchez à savoir comment lancer un couple, comment devenir amoureux.
Absolument.
C'est pas simple.
Il y a moyen.
Ah ouais, Jean-Claude Kaufmann.
Oui, alors c'est pas simple du tout pour Youssef, parce que j'ai l'impression que dans sa tête, il est dans un double registre. Il y a d'une part le mariage arrangé, mais je dirais autrefois, il y a longtemps... Je sais pas s'il est complètement accepté. Parce que si on rentre dedans totalement, c'est-à-dire si on abandonne le fait de fonder un lien à partir du sentiment, à partir de ses désirs et de son sentiment, eh bien, on rentre dans cette logique du mariage arrangé, et peut-être qu'à partir de là, on peut construire une relation d'amour. C'est ce qui se passe aussi sur les sites de rencontres aujourd'hui. On vous propose, c'est des mariages arrangés, on vous propose un candidat, on vous dit, ça peut être celui-là. Mais du coup... Il ne faut pas être en même temps dans la logique amoureuse, quoi. J'ai l'impression que Youssef, il a envie d'être amoureux, quoi. Et de créer son lien, de créer son couple à partir de ce sentiment d'amour, quoi.
Absolument. Il cherche à ce que l'amour émerge en lui dans une situation qui finalement lui a été presque imposée. Et il y a en effet cette ambivalence entre je dois, il faut, mais j'ai envie finalement d'autre chose. Et c'est vraiment un processus aussi de se libérer des injonctions familiales ou parentales et d'un système. Mmh. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et
Youssef, je voudrais encore vous poser une ou deux questions, si vous le permettez. On va rendre l'antenne pour le flash. Vous pouvez rester encore quelques minutes au téléphone avec nous ensuite.
Oui, bien sûr.
On parle des couples sans amour, couples arrangés ou couples où l'amour s'est totalement délité. Vous restez bien sûr avec nous, Géraldine Prévost-Gigant et Jean-Claude Kaufmann. Et bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve juste après le flash, dans 3 minutes. Restez avec nous, les voisins.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. À l'occasion de la Saint-Valentin, on s'intéresse à un tabou, les couples qui cohabitent sans amour. C'est une situation banale et pourtant que personne ne commente vraiment, un de ces recoins béants de la vie quotidienne, une évidence que finalement on semble ignorer à grand renfort de plans marketing sur la nécessité de réussir sa vie amoureuse à tout prix, une performance qui n'est pas à la portée de tous. Est-ce pour autant une faillite? Non, si elle est provisoire, mais quand le provisoire est bricolé, s'accroche à un principe de réalité, là aussi on s'interroge avec vous, Géraldine Prévost-Gigant, psychopraticienne, spécialiste de la question amoureuse, et Jean-Claude Kaufmann, sociologue. Et bien sûr vos appels, si vous vivez une relation de couple difficile, sans amour, ou un mariage arrangé, dites-nous pourquoi vous restez et comment vous voyez l'avenir au 33 1 84 22 71 71. Nous avions au téléphone Youssef juste avant le flash, 26 ans. Vous êtes toujours en ligne avec nous, Youssef ?
Oui.
Vous êtes à Dakar. Et donc, vous nous disiez que vous vous êtes marié il y a peu de temps, mariage arrangé par votre famille, la famille de votre femme, j'imagine. La pression de votre maman après plusieurs échecs amoureux successifs. Enfin, à 26 ans, il n'y a pas dû non plus en avoir des centaines hein, d'échecs amoureux. Géraldine Prévost-Gigant voulait vous poser une question, Youssef.
Oui, Youssef, je voulais savoir si vous avez parlé à votre femme de ce que vous ressentez et de ce qui se passe, cette situation qui est en quelque sorte un peu imposée.
Est-ce que vous lui avez dit que vous ne l'aimiez pas?
Ah non, surtout pas. Elle a toujours essayé de ramener le sujet sur la table pour me dire, bah, écoute, tu sais, je sais que tu ne ressens pas grand-chose pour moi, tu ne m'aimes pas, mais moi c'est tout le contraire, et je veux vraiment que tu fasses des efforts pour m'aimer, parce que pour moi j'estime que tu es un cadeau du ciel, donc elle essaye de faire vraiment des efforts pour que je change. Et du coup c'est ce qui me touche un peu et qui fait que je n'ai pas envie d'être brutal et de la repousser
ouais.
Comme ça. Quoi.
Ouais. Elle fait tout pour que vous tombiez amoureux et ça ne vient pas.
C'est ça, elle essaye de faire vraiment des efforts pour que une harmonie s'installe dans ce couple.
Mais
les problèmes, généralement, ils viennent de moi, parce que bon, je ne suis pas très communicatif. Il y a des choses que je n'ose pas lui dire tout de suite. Quand je n'apprécie pas quelque chose, je n'ose pas pour ne pas la blesser.
Mais c'est difficile dans un contexte imposé.
Je pense qu'elle n'est pour rien,
ouais. Mais qu'est-ce que vous n'osez pas lui dire, par exemple?
Disons, par exemple... Quand il s'agit de l'hygiène, quelquefois, ça laisse un peu à désirer, ça je n'ose pas lui dire pour ne pas la frustrer.
Oui, enfin c'est un détail ça.
Ouais, alors ça c'est dans tous les couples. Hein. Dans tous les couples, il y a des centaines et des milliers de petits agacements tous les jours, parce que l'autre il est différent. L'autre, il est différent, même après 20 ans et 30 ans de vie commune. Donc, ce n'est pas fini, hein, Youssef. Hein. L'autre, il continue à avoir des manières de toucher les objets, des rythmes, des rapports à l'argent, etc., qui sont différents. Et on ne peut pas imposer son propre point de vue. Hein. Il faut accepter ce fait-là que l'autre, il est différent. Et la question, c'est est-ce que vous avez envie d'essayer de l'aimer ? Ou pas, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un blocage complet dès le début? Et comment c'est venu au début? Dès le début, du coup, vous avez accepté ce mariage arrangé alors que vous sentiez dès le début que ça allait être difficile pour vous?
Oui, pourquoi vous avez accepté finalement à 26 ans?
Il y avait pas mal de soubresauts dans cette histoire, une pression vraiment énorme. Puisque, en fait, si vous voulez, j'ai un aîné qui est dans un mariage mixte. Et du coup, c'est un peu mal pris chez nous. Et du coup, moi, j'en ai fait les frais, hein, parce qu'avec des pressions énormes.
C'est ça. Donc, tu vas pas refaire la même erreur que ton frère.
Voilà, c'est une sorte de pression, quoi.
Et ça répond au soi parfait. Il faut être parfait, celui qui est parfait dans la famille.
Vous vous considérez aujourd'hui piégé dans votre couple, Youssef ?
Piégé, oui.
Oui, alors là, effectivement, hein, parce que c'est un piège un peu inhabituel, quoi. Hein. Mmh. Et le problème, c'est qu'effectivement, vous êtes engagé dans ce mariage arrangé sous la pression. J'imagine que c'était très difficile de résister à cette pression. Mais vous, vous avez envie de fonder le lien à partir de vos sentiments complètement. Et c'est pas simple, parce que comme vous le dites, vous avez parfois un petit peu de mal à communiquer, à vous exprimer.
Enfin, à l'antenne, ça se passe très bien pour
mais
communiquer.
Voilà, ça se passe très bien.
On vous rassure, hein, pas de problème pour communiquer.
Et quand même, il faut, avant de tirer un bilan, je dirais, définitif, un petit peu négatif de la situation, il faut quand même que vous essayiez de voir s'il n'y a pas quelque chose. Parce que parfois, au début, ça peut commencer tout doucement, hein, même parfois avec un petit peu de déception du partenaire, et puis ça s'installe par la suite.
Jean-Claude Kaufmann, il milite pour les couples et pour l'amour. Hein,
oui, non, parce que souvent,
vous
abandonne souvent trop vite.
Vous fixez une deadline, si dans 2 ans, ça ne marche toujours pas, je divorce. Qu'est-ce que vous vous dites, Youssef ?
Je pense que je vais certainement y arriver. Enfin, inévitablement, mais...
Mais vis-à-vis de la famille, il faudra avoir l'air d'avoir essayé, c'est ça ?
C'est cela.
Et est-ce
puis,
qu'il...
juste un autre petit détail, c'est que voilà, physiquement, j'arrive pas à avoir cette attirance-là envers elle. Quoi.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une relation intérieure dont vous n'auriez pas fait le deuil ?
Ça, c'est tout à fait une situation qui correspond vraiment à ce que je dis.
Ah oui,
voilà. Mmh. Donc ça aide pas à allumer la flamme entre vous et votre femme. Donc il y a peut-être déjà... un deuil et à clore un chapitre pour pouvoir éventuellement voir ce qui peut se passer ensuite.
Youssef, en tout cas, merci beaucoup d'avoir eu le courage de nous appeler, parce que c'est pas simple aujourd'hui d'appeler pour raconter qu'on est au bord d'une faillite de couple, ou en tout cas qu'on cohabite et que c'est pas les grands sentiments tous les jours. Merci et très bonne journée à Dakar. Vous continuez de nous appeler 33 1 84 22 71 71. Est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes raisons de rester en couple quand l'amour n'est plus là ou n'a jamais été là?
Non, c'est assez différent. Alors, on ne peut pas dire tous les hommes et puis toutes les femmes, parce que chaque histoire est personnelle et il y a des très grandes différences. Mais beaucoup d'hommes s'installent assez facilement dans un couple confort, et leur slogan, c'est, très souvent, c'est « faut pas se prendre la tête », etc. Ils essaient d'installer une ambiance de bien-être, de décontraction. Ils sont souvent un petit peu les joyeux lurons du foyer, etc. Et quand une femme décide de partir, c'est 9 fois sur 10 les femmes qui décident de partir, très souvent, ils vont s'accrocher très très fort, et puis ils vont devenir complètement malheureux face à cette idée de départ. Pour les femmes, c'est y a une demande qui est plus forte. Il y a une demande, effectivement, que le couple reste vivant, qu'il y ait une attention à l'autre, qui reste présente. Et quand la routine envahit un petit peu le couple, eh bien, ça ne va plus. D'où la décision de divorce qui vient des femmes très souvent.
Une voisine nous appelle au 33 1 84... Ah non, on a un problème de ligne téléphonique, apparemment. Vous parlez souvent, Jean-Claude Kaufmann, d'une véritable obstination de certaines femmes quand elles restent dans un couple qui ne fonctionne plus, notamment pour des raisons matérielles. Et on l'a entendu aussi dans les témoignages que j'ai lus qui nous sont parvenus sur nos réseaux sociaux. Les hommes se plaignent aussi des femmes qui construisent un couple sur des raisons matérielles, donc par définition où l'amour est secondaire.
Oui, alors ça existe quand même encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les femmes ont complètement changé aujourd'hui, elles avancent vers l'égalité, mais il y a du mal à faire le deuil des anciens souhaits féminins, de faire le deuil de l'homme qui est un petit peu protecteur, qui est le porteur de l'autorité d'une certaine manière, et puis de l'homme qui apporte un peu le confort matériel. J'avais suivi pour un magazine féminin il y a quelques années, les petites annonces qui étaient envoyées, c'était des candidats masculins qui envoyaient leurs petites annonces de profil. Alors, quel était le profil du prince charmant un petit peu idéal ? Donc, il y avait un espèce de poète et un homme plein d'humour qui était pas trop mal placé. Mais il y avait un
vous
monsieur...
financièrement.
Mais il y avait un monsieur un peu âgé qui avait une belle villa sur la Côte d'Azur et qui faisait exploser les compteurs. Donc, c'est très, très, très
touristes, mais ça existe encore aujourd'hui.
Mais partout dans le monde, Géraldine Prévost-Gigant, sur les différences hommes-femmes dans ces couples qui se délitent.
Il est vrai que moi, je reçois plus de femmes que d'hommes en consultation. Elles consultent plus facilement avec une souffrance qui est bien là, à tenter de sauver leur couple. Et lorsque, à un moment donné, une limite est franchie, c'est vrai que c'est elles qui prennent la décision. Et les hommes qui viennent me consulter pour ce sujet sont généralement avec vraiment l'angoisse du changement, la peur du changement. Il y a en effet un contentement à cette routine, ce confort, ils y sont attachés, même si l'amour est moins là, voire plus là. L'environnement et cette routine les sécurisent. Et donc, il y a vraiment une angoisse à vivre le changement parce qu'ils sentent que la fin du couple arrive et c'est plus difficile pour eux. Tandis que les femmes prennent la décision et donc anticipent et font face à leurs éventuelles peurs et notamment la situation financière, elles vont anticiper et essayer de se sortir de cette situation pour retrouver une autonomie qui leur permettra de faire des choix.
Ouais. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle de ces couples qui font couple, mais sans sentiment, sans amour, même s'il y a eu peut-être autrefois une relation amoureuse. C'est pas simple hein, d'appeler, de prendre la parole sur le sujet, parce qu'aujourd'hui on a envie d'annoncer que question vie privée, tout brille et tout fonctionne bien. Et là, on est vraiment dans un sujet qui touche à l'intime, bien plus intime encore que les classiques difficultés conjugales, hein, on est bien d'accord.
Absolument, c'est vraiment un sujet tabou puisque ça fait face à une... C'est contre la norme. La norme, c'est en couple, on est heureux et ça dure tout le temps.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
Le printemps passe et l'amour balayé plus vite que les feuilles d'automne. La routine s'installe, pas de communication, la vie devient monotone. Une larme de sang glisse de sa joue puis tombe sur le sol. Je t'aime, mais je te hais, c'est l'ironie du sort. J'ai beau jouer le bourreau des cœurs, ce soir on dit nos chandelles dans les plus beaux décors. J'ai refusé de nourrir ma vie de tes pleurs. T'as le plus beau des visages et le plus beau décor. Je veux te demander ta main, non, je n'ai pas peur d'affronter le regard de ton père. J'ai tout ce qu'il faut pour faire ton bonheur et le mien, s'il me valide et qu'il faut repérer à moi. Je suis peut-être pas le mec parfait, je place peut-être quelques disquettes par phrase. Mais je t'assure que si dans ma vie tout était parfait, je le referais, j'ai trimé pour mériter ma place. Moi, on m'a rien donné dans la vie, de mes mains j'ai construit le plus beau des navires. Et j'ai échoué seul sur une île comme Tom, si c'est si chavire. Le regard vide, j'ai froid, sans toi. Le printemps passe et l'amour balayé plus vite que les feuilles d'automne. Moi qui ne connais l'effroi, seul dans mon désarroi. Une larme de sang glisse de sa joue puis tombe sur le sol. Je sais que tu m'en veux, t'as mis le téléphone en veille. C'est la faute de ma carrière. Je sais que tu regardes les messages de la veille. J'ai débarré. Je sais que je laisse un vide dans la pièce. Mais je veux que tu sois ma l'aile, ma reine qu'on t'appelle la caisse. J'ai peur de m'engager donc je fuis. Fais partie de celle qui passe au-dessus de l'oseille et des gens en alliage. C'est bien plus qu'un flirt, car devenir un homme, c'est faire sa demande en mariage. Un nouveau chapitre nous était destiné, t'as préféré tourner la page. Je t'aime, mais je te hais de l'amour à la rage.
Islem, si je t'aime, moi non plus, chez 7 milliards de voisins. À l'occasion de la Saint-Valentin, on prend le problème à l'envers. Qu'en est-il pour ces couples qui n'éprouvent plus ou n'ont jamais éprouvé de sentiments l'un vis-à-vis de l'autre? Ou alors il y a un problème du côté de l'un et pas de l'autre qui est amoureux? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nabila nous appelle de Paris. Bonjour Nabila.
Bonjour.
Vous êtes dans une situation de couple compliquée, je crois.
Oui, voilà. Donc, en fait, j'ai 33 ans, j'ai deux enfants. Et je vis en couple depuis 2012 avec mon compagnon, le père de mes enfants. Mais là, ça fait plus de deux ans que ça ne va pas du tout. Mais faute de logement, étant donné que je n'ai pas de solution de garde pour mes enfants, qui sont encore petits. Donc, j'ai une fille de 5 ans et une autre de 1 an et demi. Donc j'ai des petits problèmes d'organisation pour travailler, ce qui fait que là, je suis obligée de rester du coup à la maison avec le père de mes enfants. Et donc on est passé par plusieurs périodes de conflits et de violence notamment. Et moi, malgré ça, je suis attachée à lui, je suis pas masochiste, hein, je vous rassure. Mais je suis consciente de la situation, etc.
Quand vous dites que vous cohabitez, ça veut dire vous dormez plus dans la même pièce?
Non.
D'accord. Et vous restez dans le même appartement parce que vous, vous ne pouvez pas vous loger pour le moment.
Oui, voilà, c'est ça.
Et en même temps, pour lui, lui, il attendrait que vous partiez ?
Oui, ben en fait, ça a toujours été quelqu'un d'assez volage quand je l'ai rencontré, mais il s'était engagé quand on a eu notre premier enfant. Il m'avait écrit des lettres, etc., me disant qu'il allait arrêter ce genre de pratique et ça n'a jamais arrêté. Donc ça, c'est déjà la première source de conflit. Ensuite, il est très influençable par sa famille, ses collègues, etc. Il a tendance à raconter spontanément tout ce qui se passe entre nous. Donc ça aussi, c'est la seconde source de conflit. Ensuite, comme dans tous les ménages, il y a les problèmes d'argent, etc. Donc en fait, il y a sans arrêt des problèmes. Mais de temps en temps, je sens que ça va mieux, il revient vers moi. Là, par exemple, il m'a proposé des vacances en Guadeloupe, là, dans son pays. Mais vu qu'il y a encore eu un problème, donc c'est tombé à l'eau. Et là, j'ai trouvé un logement. Enfin, j'ai peur de partir,
comme vous disiez.
Oui. Vous étiez en train de l'évoquer là tout de suite, donc voilà, je voulais avoir votre avis par rapport à ça.
Vous diriez que vous vivez dans un couple sans amour ou pas finalement ?
Moi, franchement, j'ai toujours voulu que ça se passe bien. Je vous dis, je suis toujours.
C'est de son côté. C'est de son côté. Vous avez l'impression qu'il n'est pas capable de vous aimer.
Je sais pas, en fait, s'il est capable d'aimer une femme, parce que, comme je vous dis, il va d'une femme à l'autre, je sais pas.
Géraldine Prévost-Gigant.
Oui, moi, j'avais envie de demander à Nabila de quoi elle a peur. Est-ce qu'elle a peur de regretter ou est-ce qu'elle a peur d'une réaction qu'il pourrait avoir ? Quelle est la peur de partir ?
Ben en fait, déjà, la peur, comme vous le disiez, du changement, d'être seule. Et ensuite, la peur d'avoir pris la mauvaise décision. Enfin, il y a déjà eu beaucoup de conflits, donc je pense à mes enfants. Je me dis qu'il ne faut pas qu'ils soient exposés à long terme à une situation comme ça. Ce n'est pas bon pour eux. Mais comme je vous dis, des fois, il revient vers moi, donc je ne sais pas en fait quoi penser.
Mais ce que vous décrivez sur ces années de couple, finalement, c'est quand même beaucoup plus un couple très ombrageux qu'autre chose, non ?
Oui, oui, ça l'est, mais comme je vous dis, de temps en temps, comme partout, il y a des hauts et des bas, et je ne sais pas, je voulais avoir votre avis. Enfin, par exemple, là, pour la Saint-Valentin, je voulais tenter quelque chose, un cadeau, une lettre... histoire de voir ce que ça pouvait donner.
Alors, d'abord, sur la question de la peur, hein, c'est normal d'avoir peur. Hein. C'est normal parce que partir d'un couple, c'est pas simplement changer de décor. Hein. Le couple nous transforme, donc c'est partir pour une nouvelle vie. Hein. Donc, faut être décidé. Faut vraiment que ça n'aille plus. Alors là, il y a quand même un certain nombre de points un petit peu négatifs. Vous dites, il est volage, hein, et il rencontre d'autres femmes.
Nabila a évoqué aussi des périodes de violence.
Oui, et puis le fait qu'il raconte aussi à droite à gauche, c'est-à-dire que la complicité, elle est plus forte ailleurs que dans le couple. Ça ne se fait plus dans le couple d'aujourd'hui. Notre partenaire est notre premier confident et notre premier fan, normalement. Il y a une relation un petit peu de confiance mutuelle. Et il faut que vous voyez clair par rapport à la situation. Et pour voir clair, c'est pas le fait qu'il y ait un petit moment, par exemple pour la Saint-Valentin, où ça va aller mieux. Parce que s'il y a un petit moment où ça va mieux, et puis que dans deux jours, ça va pas du tout, faut essayer de dresser un bilan global. Et si vraiment, pour vous, vous êtes en souffrance, si ça ne va plus, faut que vous essayiez de lui dire, parce qu'à ce moment-là, il peut se réveiller. Au moment où vous allez dire que vous voulez partir, peut-être que ça peut le secouer d'une certaine...
Et que vous avez un logement, surtout.
Et puis, alors, faut être sûr de vous, parce que si vous n'êtes pas motivé, sûr de vous, en confiance, c'est sûr que ce n'est pas toujours simple de se réinventer une autre vie. Et... faut pas forcément prendre le prétexte des enfants, parce que moi j'ai dans mon témoignage des enfants devenus adultes qui ont reproché à leur mère de pas être partis plus tôt. Parce que vivre dans un couple où ça se passe mal, c'est pas bon pour les enfants, quoi.
Et ensuite, ils en témoignent dans le cabinet de consultation. J'ai de nombreuses personnes qui sont adultes aujourd'hui et qui, en effet, disent à quel point ça a été douloureux de voir leur mère malheureuse et continuer à être en couple ou leurs parents malheureux ensemble et qu'ils auraient préféré qu'ils se séparent.
Nabila, on vous souhaite bon courage pour cette Saint-Valentin. Je ne sais pas si c'est le problème, mais en tout cas pour l'avenir et pour la décision que vous allez prendre. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés parce que c'est pas facile hein, de témoigner de la faillite de son couple. Merci, très bonne journée à vous, Nabila.
Merci, au revoir.
Jean-Claude Kaufmann, vous venez de publier L'amour qu'elle n'attendait plus. Alors là, c'est il y a un côté quand même assez romancé à partir de témoignages. Vous avez 40 ans d'enquête hein, sur le, sur là, le couple, là, sur l'intime.
Je deviens un vieux bonhomme. Ouais.
Vous avez tout entendu comme histoire, comme confidence. Et d'ailleurs, vous dites souvent, là on a entendu des témoignages, mais vous dites souvent, en fait, la réalité des couples, les histoires de couples dépassent largement l'imagination d'un romancier.
Oui, alors des fois, un romancier nous, qui raconterait la vérité. Je prends cet exemple, c'était dans Piégé, dans son couple, cette femme qui se fait convoquer par ses beaux-parents qui lui expliquent que dans le lit, ça ne va pas du tout. Elle ne fait pas ce qu'il faut pour que le mari ait son plaisir. Quoi. Un romancier qui raconte ça dit, bon, bah, quand même, c'est un peu too much. Mais non, il y a plein d'exemples comme ça. Donc moi, je n'arrête pas de recueillir ces témoignages. Ça donne une furieuse envie de les raconter. Donc là, j'ai raconté et construit une histoire à partir de ces témoignages. Et autour de cette quête de l'amour, des fois de
c'est ça, c'est une correspondance avec une femme Anastasia qui bon est pas heureuse dans son couple, pas non plus vraiment heureuse avec son amant, enfin
alors elle recherche désespérément, elle a du mal déjà à c'est une femme qui est pleine d'énergie, alors elle a eu une enfance très dure, un manque d'affection dans son enfance qui lui a donné une énergie, une volonté de revanche de ce... et du coup elle a réussi dans son travail, dans ses études, dans son travail, mais en amour elle va trop vite, c'est comme si elle avait trop d'énergie. Donc elle a décidé de construire une famille, elle a choisi un peu son candidat, elle a construit sa famille comme ça, mais elle n'arrive pas à rentrer dedans, à vivre ça au quotidien. Et comme ça, c'est insatisfaisant pour elle, elle prend un amant en plus. Avec l'amant, ça ne va pas non plus. Elle trouve l'amour, mais c'est des morceaux d'amour différents que petit à petit, elle découvre. C'est comme une adolescente qui découvrirait l'amour, mais à 35 ans. Quoi.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 en cette Saint-Valentin, une émission singulière, mais on l'a voulu singulière à prendre des risques. Parler de son couple quand il n'y a pas d'amour, justement, c'est en réalité quand même des cas très majoritaire sur la planète, si on inclut les mariages arrangés. On avait un témoignage de Dakar tout à l'heure. Rancy nous appelle de Houston aux États-Unis. Bonjour Rancy.
Bonjour madame.
On vous écoute, vous êtes en direct chez 7 milliards.
Oui, j'aimerais poser une question qui me martèle depuis un certain moment. Je réside aux États-Unis et je suis dans une relation avec une fille qui m'aime vraiment. Et elle est très amoureuse.
Elle est très amoureuse, oui.
Oui, elle est très amoureuse parce qu'elle dit que je suis intentionnée, je fais des cadeaux et tout. Donc, ça va tout va très bien de son côté. Mais le problème, c'est que je ne suis pas très amoureux. En plus, je me suis mis avec elle parce que j'avais une petite rupture avec ma copine avec qui on a fait l'université ensemble, qui réside au Canada. Bon, maintenant, toutes les fois que je tente de rompre, maintenant, parce qu'actuellement, ma copine et moi, on s'est remis ensemble. Et d'autant que toutes les fois que je tente de rompre, oui.
D'accord, donc en fait, vous êtes avec deux filles, dont une que vous n'aimez pas.
Oui, et quand j'ai tenté de mettre fin à cette première relation, à cette seconde relation, et la fille menace de se suicider, elle ne supporte pas, j'ai juste peur qu'elle fasse une bêtise, parce qu'elle est vraiment attachée à moi. Mais
parce que de votre côté, c'est assez clair finalement, vous n'avez pas besoin vraiment de conseils, si ce n'est qu'on vous fait du chantage au suicide.
Oui, et en plus je n'ai pas besoin de vraiment faire de mal parce qu'elle m'a rien fait de mal. Depuis qu'on est restés ensemble, elle m'a toujours bien traité, c'est juste moi qui ne suis pas amoureux. Ouais.
Géraldine Prévost-Gigant, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
Déjà, on prend conscience de notre part de responsabilité et on ne porte pas 200% de la relation ou de ce qui se passe. Donc l'autre a aussi sa part de responsabilité de comment il reçoit la chose. Et puis ça, c'est du chantage affectif, hein, ce type de menace. Donc il est important de rester fidèle à son propre choix et de communiquer suffisamment pour que la personne quittée puisse peu à peu accepter la situation. Et être très sûr de son choix et aussi de communiquer avec une certaine clarté pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que la personne comprenne que la décision est vraiment prise. Et dans ces cas-là, elle va passer à une autre phase, la difficile phase d'acceptation.
Vous lui avez dit très clairement depuis le début que vous n'étiez pas très amoureux aussi ou pas?
Non, je n'ai pas dit au début. C'est une fille belle et j'étais attiré par son physique et je voulais être avec elle. C'est ça. Donc j'ai aussi peur de paraître pour celui qui a voulu abuser de l'autre. Mais au début, puisque je n'étais pas dans la seconde relation, donc au début, je n'étais plus avec ma première copine avec qui on a fait l'université. Donc j'étais complètement libre et je me suis mis avec.
Oui, ça aurait pu tout changer de le dire, parce que oui, je suis d'accord, il y a beaucoup de menaces de suicide, venant des fois de la part d'hommes également, quand une femme part, mais il y a parfois, c'est plus rare, mais il y a parfois, c'est le cas dans mon livre avec Anastasia, des plus que des menaces, quoi. Son amant ne veut pas s'engager, c'est un homme marié, c'est un schéma un petit peu classique, et elle veut, pendant une période, elle veut vraiment, elle voit pas comment faire, elle a très peur de se suicider d'une certaine manière, mais elle veut vraiment passer à l'acte. Donc parfois, il y a plus que la menace. Par contre, à partir du moment où il est dit que il y a pas de, il est peut-être encore temps de rattraper les choses, de dire clairement qu'il n'y a pas d'amour pour la personne. C'est toujours là, quand on peut, c'est difficile expliquer, de s'expliquer.
Expliquer, mais parler, prendre le
faut
temps,
toujours
et bien
essayer
sûr, ça ne se fera
plus.
Pas en 24 heures, mais ça finira par se faire, et cette rupture est inéluctable. Non,
bien sûr.
Bonne chance, Rancy. C'était le rendez-vous des difficultés conjugales et de couple aujourd'hui. Et évidemment, c'était intéressant d'entendre tous ces témoignages, parce qu'encore une fois, c'est quand même pas simple de dire qu'on reste en couple dans une situation qui est très compliquée et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Merci à vous deux, Jean-Claude Kaufmann. Votre tout dernier livre romancé, L'amour qu'elle n'attendait plus. Jardine Prévost-Gigant, vous avez publié Le Grand Amour, se préparer à la rencontre. Chez Odile Jacob, merci à toute l'équipe aussi, Cécile Lavolo, Quentin Ferral, Romain Dubrac, Boris Vichit. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique magazine, et puis nous retrouver bien sûr sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera des jeunes ou de cette génération, j'ai le droit, décrite par une enseignante, des adolescents ultra individualistes qui défient l'autorité et la communauté à la maison ou à l'école. Génération, j'ai le droit, ça vous parle?
Oui.
C'est demain chez 7 milliards de voisins, et bien sûr avec vos appels au 33 1 84 22 71 71. À demain.